et Marche sont attendus quai numéro 1.
Top départ, le rendez-vous jeunesse en mouvement qui te donne les clés du voyage.
Pose cette valise. Chouette à l'esmaletta.
Ne t'inquiète pas, il n'y aura aucun problème.
Merci de votre attention.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Top Départ, l'émission qui vous donne les clés du voyage pour réaliser vos rêves de départ à l'étranger.
Alors, c'est une émission qui s'adresse aux jeunes et qui prend la suite des émissions du forum Jeunesse en Mouvement.
Une fois par mois, on va écarter les murs autour de vous pour vous faire voyager. On fera intervenir des jeunes étudiants ou travailleurs partis de France pour explorer le monde.
Alors, on leur demandera comment ils se sont préparés, comment ça s'est passé sur place. Bref, plein de questions pour vous aider, vous, à préparer votre voyage à venir.
On partira donc avec eux en Amérique du Nord, en Asie, en Océanie, en Afrique, au Maghreb, en Amérique... pas du Sud encore, c'est pas prévu, mais ça viendra peut-être. En Europe de l'Est, mais d'abord...
D'abord, on va commencer chez nos voisins, avec cette toute première émission sur le thème de l'Allemagne.
Et pour parler Allemagne, on a réuni trois voyageurs, voyageuses autour de la table. Paul Coste, parti avec AFS en échange scolaire au lycée avec hébergement en famille. Bonjour Paul.
Bonjour à tous.
Valentin Maigre qui est parti en échange interfamille avec le jumelage de Valence, avec Erasmus aussi et qui a travaillé en Allemagne grâce au VIE, volontariat international à l'étranger. Bonjour Valentin.
Bonjour tout le monde.
Et Frédéric, ou Rick, qui est à Valence grâce au volontariat franco-allemand. Tu es, toi, à l'IUT de Valence. Bonjour.
Bonjour.
Alors, cette émission est une coproduction d'Europe Direct Drôme Ardèche, de Radio BLV, Valence Roman Aglo, la CAF et la DDCS Drôme. Nous sommes donc deux à faire la présentation. Karina, de Radio BLV. Bonjour Karina.
Salut, salut Eulalie. Et Eulalie, d'Europe Direct Drôme Ardèche. Et puis Anna Gasquet, d'Europe Direct Drôme Ardèche également, femme de l'ombre de cette émission, qui a sélectionné des témoignages de personnes de différentes institutions qui sont les mieux placées pour vous aider à préparer votre départ.
Alors, jeunes auditrices, jeunes auditeurs, si vous avez des questions pour nos invités, surtout n'hésitez pas. Appelez-nous pour interagir avec nous en direct. Notre numéro... C'est le 04 75 83 00 81. 04 75 83 00 81.
Et le téléphone est juste à côté de nous, donc on attend qu'il sonne. Et puis pour commencer, Paul, Valentin, Frédéric, on va écouter vos différents parcours. Mais Paul, pour commencer donc avec toi, tu es parti avec AFS. Donc je te propose tout d'abord, avant de te donner la parole, d'écouter une description d'AFS enregistrée par Roselyne Batteux, membre de l'association.
Je suis Roselyne Batteux. Je m'occupe de l'AFS personnellement. Mes enfants sont partis. J'ai accueilli de nombreuses fois, puisque c'est une très grande richesse de s'occuper des jeunes pour qu'ils découvrent le monde. C'est le but de l'AFS. La guerre de 14... Il me semble que c'est quand même un petit peu l'Allemagne et la France. Et donc, c'est effectivement pendant cette guerre-là où il y avait beaucoup de blessés dans le nord de la France, chemin des Dames. Et ce sont des ambulanciers américains qui ont eu l'idée de transporter les blessés jusqu'à l'hôpital américain de Neuilly, à Paris. Mais pour conduire ces ambulances, c'était des jeunes étudiants en médecine. Eh bien, les balles sifflaient et ont tué des jeunes. C'était un peu dramatique. Donc, ils ont décidé entre eux de dire bah, si on construisait un mouvement pour que les jeunes arrivent à se connaître et n'aient plus envie de se tirer dessus. Alors, pour partir, c'est tout à fait simple. On a maintenant, avec le progrès, un site qui est www.afs.fr. À partir de là, on a tous les renseignements sur AFS. On peut s'inscrire pour partir. On choisit un pays. On ne choisit pas ni la région ni la ville. On peut accueillir, parce que je pense à des gens qui n'ont plus d'enfants, qui n'ont pas eu d'enfants, qui ont des petits-enfants. Eh bien, ils ont aussi le droit de faire connaître l'international comme genre d'expérience. Bien, c'est partir quand on est en troisième, par exemple, entre la troisième et la seconde, quand on est au collège, enfin voilà, et qu'on a envie de découvrir un pays. L'Allemagne fait partie de ces pays qui acceptent que le jeune ait 18 ans, c'est-à-dire qu'il est en terminale, il a envie de partir parce qu'il ne sait pas quoi faire avant d'aller à l'université. L'Allemagne accepte. C'est prévu après dans Parcoursup. Donc le jeune qui a envie de construire son avenir avant de passer le bac, ce qui fait qu'après sur un CV, on a 2, 3, 4 langues, ça sera un plus, et dans Parcoursup, c'est quand même prévu. Ça s'appelle une année de césure, mobilité internationale, tout ce qu'on veut, mais surtout pas du redoublement. C'est une telle richesse que c'est dire, bah voilà, j'ai mis une année entre parenthèses pour apprendre autre chose, et quand je reviens, je continue ma scolarité. Pour l'Allemagne, ça peut être 3 mois, qu'on appelle un programme européen, ou alors on part une année scolaire. On est accueilli dans une famille d'accueil qui est bénévole. AFS, c'est la plus grande association mondiale après la Croix-Rouge de bénévoles. On va au lycée, dans un lycée du pays, c'est-à-dire de la langue du pays. Pour l'Allemagne, c'est ça. On va à l'école le matin et on finit alors peut-être 13h, 14h. Et donc l'après-midi, on a des activités, comme les Allemands. Ensuite, il faut savoir que le jeune n'est jamais seul. Avant de partir, on fait 3 week-ends de formation. Il est accompagné par une personne qui est ce qu'on appelle la responsable départ, qui l'aide à faire son dossier. Il part avec tout l'appui de ce qu'on appelle l'association locale. Et quand il arrive sur place, eh bien, il y a encore des équipes de bénévoles qui s'occupent de lui.
Donc Paul, tu es parti donc avec ce parcours-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur où, quand, comment, et puis pourquoi l'Allemagne aussi ?
Bien sûr. Alors tout d'abord, je pense que c'est une chance de pouvoir partir un an comme ça à l'étranger à mon âge, c'est-à-dire à un jeune âge. Je suis parti quand j'avais 17 ans, donc entre la seconde et la première. Et c'était, comme dit Roselyne, une envie de découverte, une envie de partir à l'étranger, de découvrir d'autres personnes, d'apprendre une nouvelle langue. Et le choix était directement sur une année et non pas 3 mois. Et l'Allemagne, car ça a été surtout un choix, je pense, où j'ai pensé pour plus tard, en me disant, voilà, beaucoup de personnes parlent espagnol maintenant, mais peu de personnes parlent allemand. Et du coup, ça peut être, je pense, une expérience un peu plus enrichissante de parler allemand, et plus de personnes recherchent des personnes qui parlent allemand plutôt qu'espagnol, je pense. Du coup, ça a surtout été tourné sur ce point-là, sur ce point de vue-là pour l'Allemagne.
Alors, est-ce que tu peux nous dire où es-tu parti exactement en Allemagne ? Nous dire un peu plus, voilà. Ou en Allemagne, parce que finalement, l'Allemagne, c'est grand.
Bien sûr. Alors, je suis parti, j'ai étudié à Darmstadt, qui est une ville un peu plus grande que Valence. C'est à côté de Francfort. Et c'est vrai que c'est une ville qui me paraissait quand même immense au début, parce que j'habite à Saint-Péray, qui est un peu un petit village de campagne. Et ça m'a fait quand même un peu bizarre au début d'arriver dans une ville immense. Et voilà, c'était Darmstadt, c'était très joli et très sympa à découvrir.
Donc tu nous raconteras un peu plus en détail comment ça s'est passé plus tard. Donc le but de l'émission, c'est d'abord que vous vous présentiez, puis on va parler des préparatifs, comment se préparer. Ensuite, on va être plus sur le concret sur place, donc vos petites anecdotes, je ne sais pas, de l'Allemagne. Et donc pour continuer vos parcours, je vous propose d'écouter maintenant Romain Galati qui décrit lui le comité de jumelage de Valence avec lequel Valentin est parti notamment, hein, avec plein de, tu as fait tellement de choses, mais tu as fait ça aussi. Et ensuite on pourra parler de ton parcours.
Romain Galati, je suis vice-président du comité de jumelage de Valence. Donc, il y a une association qui existe depuis un peu plus de 50 ans. Et depuis, nous avons 6 villes jumelles, Asti en Italie, Biberach en Allemagne, Clacton-Tendring au Royaume-Uni, Batroun au Liban, Gedera en Israël et Ijevan en Arménie. Toutes les personnes, que ce soit des individuels ou des associations, peuvent venir adhérer au comité de jumelage et participer à des projets ou en proposer. Donc, par exemple, un club de tennis qui voudrait faire un tournoi ou un échange franco-allemand autour du tennis adhère au comité de jumelage. On lui trouvera un partenaire dans notre ville jumelle. Et après, eux, ils décident entre eux ce qu'ils veulent faire. Et on peut nous soutenir, que ce soit pour la logistique ou aussi financièrement. Quand on a un jeune qui veut partir, nous, on va pouvoir l'orienter vers une structure adaptée dans notre ville jumelle pour l'accueillir. Donc, par exemple, on a des étudiants qui veulent partir en stage. Et en fait, nous, on va aider à faciliter le contact avec notre ville jumelle qui pourra leur dire, bah, on a telle entreprise qui prend des stagiaires de telle date à telle date et eux, ils poussent pour que ce soit un jeune de Valence qui puisse participer. C'est des choses toutes simples, mais pour des ados, On peut les envoyer pendant un mois, voire deux mois, et puis ils font l'accueil à la piscine municipale, par exemple. Donc c'est tout simple, mais ça leur permet de passer un mois, voire deux, dans la ville jumelle, d'être logés dans une famille qui va bien s'occuper d'eux, et eux d'avoir un peu d'expérience et surtout de pouvoir parler la langue. Et on a notre échange organisé nous-mêmes. Donc on appelle ça un échange interfamilial, c'est-à-dire on envoie les jeunes dans les familles pendant une semaine et après ils reçoivent leur correspondant pendant une semaine à Valence. À partir du moment où l'élève est un élève germaniste et entre 13 et 17 ans, ils peuvent participer à cet échange que nous organisons tous les ans. Nous avons après d'autres échanges, par exemple pour les 18-20 ans, on a une semaine d'allemand intensif à Bibrard. Donc là, ils vont pendant une semaine à Bibrard. Le matin, ils ont des cours et l'après-midi, ils ont des visites culturelles. Donc là, vu qu'ils sont majeurs, c'est eux qui organisent le déplacement. Mais par contre, ils sont logés dans les familles sur place. Souvent, ce qui est un peu difficile, c'est quand les familles ne se connaissent pas, d'envoyer leurs enfants, surtout des mineurs, ça demande quand même de faire un peu confiance. Donc quand ça passe par un comité de jumelage où on connaît les gens, on connaît les familles, forcément ça facilite le contact. Moi j'ai fait pas mal d'échanges quand j'étais plus jeune, donc j'ai fait l'échange interfamilial avec Bibrard. Ensuite j'ai fait la semaine d'allemand intensif quand j'ai eu 18 ans. Et en fait dès que j'avais l'occasion j'y suis retourné à Bibrard, mais aussi à Asti. J'ai pu aller aussi dans notre ville jumelle israélienne à Guédéra. Donc je suis très régulièrement dans nos villes jumelles et à chaque fois, c'est vraiment un bonheur. En fait, on tisse des vrais liens. C'est une histoire qui a commencé il y a plus de 50 ans et qu'il faut aujourd'hui continuer de transmettre à la jeunesse pour pouvoir la faire perdurer.
Alors Valentin, donc, comité de jumelage, c'est comme ça que tout a commencé ?
Tout à fait, c'est ça. Je suis parti en troisième donc à Bibrard avec le comité de jumelage. J'avais un correspondant là-bas et juste avant, j'étais parti déjà en Allemagne à côté de Francfort, pas très loin de Darmstadt du coup, avec donc la ville qui était jumelée avec Saint-Péray. Parce que j'avais ma prof d'allemand qui était à Paul Valéry, qui était aussi au collège de Saint-Péray et qui m'avait trouvé une correspondante allemande sur place là-bas. Et du coup, je suis parti dès que j'avais 13 ans en Allemagne, donc dans une famille qui ne parlait pas du tout français, la mère ne parlait pas du tout français. Je suis parti pendant 10 jours et elle avait encore cours alors que moi j'étais en vacances, parce que les vacances d'été c'est un peu plus raccourci chez eux que chez nous. Et donc du coup, grand bain d'allemand. Et c'était,
direct, immersion totale.
Complètement, et par contre ça m'a fait progresser comme jamais en allemand. Et puis ça m'a fait vraiment aimer le pays et puis les gens aussi qui y habitaient, parce que j'ai été reçu comme si j'étais chez moi, vraiment c'était quelque chose qui était super, enfin vraiment. Et puis j'ai fait ça pendant 5 ans, donc voilà, où mon correspondant venait à Valence, moi je partais à Bibrard, ma correspondante venait à Valence, on est parti en Bretagne aussi en vacances ensemble, on a fait aussi l'Euro 2016 à Toulouse en 2016, du coup en tant que volontaire là-bas, avec l'OFAGE justement aussi. Donc voilà, on a fait énormément d'échanges tout au long des années et ça y est, 10 ans d'amitié bientôt. Donc quand je travaillais en Allemagne, en VIE, j'allais aussi les voir encore. Donc voilà, c'est vraiment des relations qui se tissent et qui tiennent dans le temps. Donc c'est vraiment top.
Alors pourquoi t'être intéressé à l'Allemagne au départ ? Parce que donc Paul nous a aussi parlé de l'intérêt linguistique. Toi, est-ce que c'était ça, voilà, l'intérêt d'apprendre une langue peut-être moins parlée que l'espagnol ou totalement autre chose ?
Moi, j'étais vraiment curieux de l'allemand parce que j'ai commencé du coup en CM1 j'étais sur Guy-Rengrange à l'époque et le comité de jumelage de l'époque proposait des cours pour des CM1 et CM2. Et c'était le mercredi après-midi et moi j'ai dit pourquoi pas tenter, etc. Et puis j'ai tout de suite accroché avec la langue. Donc c'est bizarre, hein, y a très peu de gens qui diront ça parce que l'allemand c'est un peu bizarre comme langue. Mais en tout cas, moi j'ai accroché tout de suite et j'ai aimé ça parce que c'est très logique comme langue. Et du coup, j'avais cet esprit-là. Et puis quand je suis parti après pour les premières fois, c'était vraiment une révélation. J'ai toujours dit que voilà, j'aimerais travailler en Allemagne, j'aimerais y voyager aussi, parce que vraiment c'est un pays qui est magnifique aussi. Et je me suis toujours bien entendu là-bas et j'ai toujours croisé des gens super sympas qui m'ont toujours aidé. Donc voilà, c'était À chaque fois, j'ai jamais eu une mauvaise expérience en Allemagne, donc j'espère, je touche du bois, mais j'espère que ça arrivera pas.
Ça va, tout est en bois autour de nous. Et la suite de ton parcours, donc, après cette expérience
Du coup, après, je suis parti en prépa commerce à Champollion, du coup, à Grenoble. Et l'allemand a toujours été ma première langue, qui était du coup une force aussi, grâce à ces nombreux voyages en Allemagne. Et je suis arrivé en école de commerce, à l'école de commerce de Toulouse. Et puis là-bas, en fait, en école de commerce, on a des universités partenaires, en fait, qui sont partenaires avec l'école. Et moi, il y avait l'université partenaire de Bamberg, qui est donc au nord de Munich, donc toujours en Bavière, mais là-bas, ils diront que c'est la Franconie et pas la Bavière. Ils nous en veulent un peu parce que c'est la faute de Napoléon. Mais en tout cas, je suis parti 6 mois là-bas en Erasmus, en année de césure, donc entre mon Master 1 et mon Master 2. Et donc pour apprendre des cours là-bas en allemand et en anglais.
Wow.
J'avais les deux parce que c'était... Enfin, apprendre des cours en allemand avec des Allemands, c'était très, très dur. Enfin, honnêtement, heureusement, on était 3 Erasmus dans la classe d'allemand, mais 3 Français d'ailleurs, qu'on se connaissait aussi un petit peu. Mais c'est vrai que ça a été compliqué, mais j'ai fait des travaux de groupe avec des Allemands, ça s'est à chaque fois très très bien passé, même si on n'avait pas forcément les mêmes façons de travailler, parce que forcément, il y a des différences culturelles qui se font, mais c'était super intéressant de pouvoir échanger avec eux. Et donc, ça m'a donné envie d'y retourner. Je suis parti donc en VIE, donc c'est le volontariat international en entreprise, qui est un contrat un petit peu aidé par l'État français, qui va en fait... on ne paye pas d'impôts, les entreprises n'ont pas de charges non plus pour les travailleurs qu'ils envoient à l'étranger. Je suis parti donc à Sarrebruck, donc juste à la frontière allemande. Donc j'avais mon appartement à 400 mètres de la frontière, donc j'étais pas très très loin au cas où.
Mais, c'était l'approché.
C'est ça, exactement. Moi, j'ai pas passé beaucoup la frontière parce que j'aimais bien le côté allemand quand même. Et puis, et donc là, je travaillais pour les vigneroirs des choix et je vendais du vin donc sur toute l'Allemagne. Donc j'avais toute l'Allemagne, donc je partais à Berlin, Hambourg, Munich, etc. Donc c'était pareil, à chaque fois une découverte de ville que je connaissais des fois, mais que des fois je connaissais pas du tout, je connaissais pas Hambourg, etc. Et vraiment, c'était super intéressant aussi, les clients. Enfin, j'ai vraiment travaillé en Allemagne, donc avec des clients allemands. J'ai fait des dégustations pour des clients en Allemagne, etc. Donc c'était super intéressant aussi.
Et la dernière personne autour de cette table, Eric, toi, c'est dans l'autre sens.
Ouais, exact. Une Allemande qui est venue en France.
Alors, donc, si on inverse les questions, pourquoi la France et combien de temps, dans quel cadre est-ce que tu es là parmi nous?
En gros, moi, je suis venue pour cette année 2020-2021 dans le cadre de l'OFAGE, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et ce que j'ai fait, c'est que ça s'appelle en service civique, en volontariat franco-allemand, dans l'enseignement supérieur. Alors moi, je suis embauchée, entre guillemets, par l'IUT de Valence, dans les relations internationales. Normalement, dans un cadre hors Covid, je m'occupe avec les étudiants qui sont venus avec Erasmus ou Erasmus+. J'organise des trucs. Je fais partie du ESN, qui est Erasmus Student Network. Du coup, en réseaux sociaux pour tous les étudiants étrangers à Valence et ailleurs. Et pourquoi la France? Bonne question. Moi, je suis venue la première fois en Drôme, c'était en 2017. Et comme Valentin, moi aussi, j'ai fait un échange au lycée. J'avais 15 ans quand je suis venue la première fois. Et j'ai passé 4 semaines dans une famille à Montchenu, en tout petit village, au-dessus de Saint-Denis-sur-la-Basse. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai toujours gardé les liens avec la famille là-bas. Et voilà, après, je suis partie un an au Brésil. J'ai fait un échange avec le Rotary Club. Je ne sais pas si ça existe en France. Ouais. Ok. Juste pour vérifier. Je suis revenue en Allemagne. J'ai fait mon bac ou mon abitur. Et puis, je me suis dit, c'est l'occasion pour découvrir un peu plus l'Europe. Et j'ai postulé pour l'OFAGE. Alors, le volontariat franco-allemand, ça se fait dans plusieurs domaines. Il y a le domaine sportif, culturel, l'enseignement de base, les écoles primaires, les lycées, les collèges. Mais il y a aussi l'enseignement supérieur. Et moi, je me suis dit, ça m'intéresse beaucoup de travailler avec des étudiants français, surtout dans un cadre interculturel, organiser des projets franco-allemands. Ça m'intéressait beaucoup. Et du coup, ça se passe comme ça. Il y a 15 volontaires allemands qui postulent pour avoir des places dans des institutions françaises. Et à l'autre côté de la frontière, il y a 15 Français qui vont passer une année en Allemagne. Et du coup, ce n'est pas nous qui choisissons les universités, c'est les universités qui, eux aussi, font leur candidature. Et voilà, il y a un échange comme ça. Et du coup, moi, j'étais tout de suite contactée avec, par l'IUT de Valence. Peut-être qu'ils ont vu dans mon CV que j'ai déjà passé quelques temps
dans la Drôme.
Dans la Drôme, exact. Et voilà, moi, j'ai tout de suite dit oui, parce que je sais que la région me plaît, c'est super beau, il y a la nature qui n'est pas loin, et j'aime bien les randonnées aussi, du coup, il y a le Vercors. Et c'est pour ça que, voilà, je suis venue à Valence, et j'y suis depuis septembre 2020, du coup, ça fait à peu près 7 mois.
Bienvenue.
Merci.
Donc toi, tu es notre experte Allemagne aujourd'hui parmi nous pour les questions pratiques sur l'Allemagne. Et donc je t'ai demandé pour cette émission de préparer trois anecdotes culturelles un peu. On va commencer par la toute première dans un instant.
Il paraît que c'est typique.
Alors, Rike, je t'ai posé la question de différences culturelles que tu aurais remarquées, de choses, voilà, des coutumes ou je ne sais pas, de différences humaines entre les Français et les Allemands. Est-ce que tu as trouvé une réponse ?
En gros, je dois avouer que les différences culturelles, il y en a moins entre la France et l'Allemagne. Le choc culturel, il est moins frappant que, par exemple, entre l'Allemagne et le Brésil. Par contre, il y a quand même des petites différences qui sont là et c'est évident. Pour commencer, déjà en Allemagne, on ne grille jamais en feu rouge. Oui, j'avoue que dès que je suis en France, je m'adapte, mais en Allemagne, ça n'arrive pas souvent. Mais en France, je vois que l'habitude des cyclistes et aussi des voitures, j'en veux moins, mais surtout les cyclistes, dès qu'ils voient qu'il n'y a personne, mais le feu, il est encore rouge, ils vont démarrer. Mais en Allemagne, même si le feu est rouge, il n'y a personne, voilà, le feu, il est rouge. Moi, je m'arrête, c'est en question logique.
Et si on passe au rouge, on se fait engueuler en plus.
Ah bah oui, si tu fais ça devant des enfants en plus, voilà, non, il ne faut pas faire ça. Ouais. Exact.
Pas vu, pas pris.
Oui, il faut être un bon modèle.
Merci beaucoup, Rike, pour cette anecdote. Je vous propose qu'on rentre dans le concret de la préparation. Donc, voilà, pour quand on veut partir, il y a plein de questions à se poser importantes. Je vous propose tout d'abord d'écouter Salia sur ce sujet et ensuite vous allez nous dire un peu comment vous êtes préparée de votre côté.
Moi, c'est Salia, je suis l'animatrice conseillère du Point Info Jeune de Valence Roman Aglo. Je suis également la référente sur la question de la mobilité internationale au sein du PIGE. Le PIGE, c'est un lieu d'accueil et d'information pour les jeunes. Si tu as entre 11 et 30 ans, le PIGE peut t'aider sur les questions liées à une recherche de logement, d'emploi, de formation, questions de santé et bien évidemment si tu as envie de bouger en Europe ou dans le monde. C'est important de savoir qu'est-ce qui te donne envie de partir. Est-ce que tu as envie d'aller découvrir une nouvelle culture, voyager, approfondir une langue? Qu'est-ce qui peut aussi te faire hésiter? Un budget, ta famille, tes amis? Peut-être des soucis de santé. Et qu'est-ce que nécessite la mobilité? Des moyens, une situation peut-être sur place, un stage, un emploi, des formalités administratives pour partir. Alors en Europe, ta carte d'identité te suffit. T'assurer bien évidemment aussi de tout ce qui concerne aussi ta santé. Et bien évidemment en Europe, tu as la possibilité de faire ta carte européenne de santé. Donc elle est gratuite et valable 2 ans. Il te suffit de te rapprocher de la CPAM ou amélie.fr. Peut-être réaliser aussi des outils comme un CV en langue ou peut-être faire des tests de langue pour savoir un petit peu ton niveau. Il faut bien évidemment penser à ton budget, au logement sur place, les transports et t'intéresser un petit peu quand même à la culture locale et faire quelques recherches pour avoir un petit peu des informations sur les différences culturelles. Voilà, donc le PIGE est situé 26 place La Tour Maubourg à Valence. Tu peux nous joindre au 04 75 75 98 82. Merci, au revoir.
Donc là, on a une belle liste de choses à faire. Oh, quand même, ça va occuper un petit moment les personnes qui veulent partir. Peut-être pour commencer, démarche administrative. Donc on l'a entendu, Salia. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Là, je pense peut-être plus aux Français. Est-ce que vous aviez des démarches à faire? Est-ce que vous en rappelez?
Moi, trouver un appart.
Ah, voilà. Bonne question. Comment tu t'es débrouillé alors?
Ah ben, d'abord, j'ai essayé de chercher sur Internet. Et forcément. Et en fait, les Allemands ne louent pas des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc, il faut. Enfin, moi, j'avais ce problème-là. Donc, du coup, je suis parti en Allemagne, j'avais pas d'appart. Donc, du coup, je suis parti pendant 3 jours dans un Airbnb en Allemagne, dans la ville où j'étais, à Sarrebruck. Et le premier jour, j'avais 4 visites d'appartement pour trouver un appart. Et j'ai trouvé tout de suite, heureusement, dans les 4, et j'ai trouvé un très bon appart. Mais c'est vrai que quand je leur disais, bah oui, je suis français, je viens là-bas pour travailler, ils me demandaient une attestation de travail en général, etc. Mais surtout, ils me demandaient de me voir. Et donc, c'est ça qui change un petit peu par rapport à la France. Moi, j'ai loué pas mal d'appartements en France et c'est rare que le propriétaire me demandait d'être présent et de me voir. En tout cas, en général, on faisait des échanges de mails, etc. Et en Allemagne, en tout cas pour mon expérience, ça ne s'est pas passé comme ça. Et je trouve ça aussi intéressant de pouvoir rencontrer les propriétaires, de pouvoir échanger avec eux sur pourquoi on vient en Allemagne, etc., pourquoi on change. Et j'ai eu la chance que les propriétaires étaient plutôt francophiles. Donc, du coup, ils m'ont fait confiance, etc. Et ça s'est super bien passé. Mais c'est vrai que c'était un peu angoissant de partir alors qu'on n'avait pas d'appart sur place, etc. Puis moi, j'étais pour un an, minimum. Donc, du coup, c'est vrai qu'au début, ça choque un peu. Mais tout se fait.
Alors, Rieke, est-ce que tu confirmes ce que disait Valentin, qu'effectivement, c'est plus facile en rencontrant directement et qu'en France, on peut plus facilement faire sans rencontrer le propriétaire et par contre qu'en Allemagne, le contact direct est privilégié?
Oui, je dois avouer que c'est comme ça un peu parce que j'imagine, moi, personnellement, j'ai jamais loué d'appartement en Allemagne, mais il y a un mot pour ça qui est « Wohnungsbesichtigung ». Du coup...
La visite,
de l'appartement. Et ça, c'est hyper important, en fait. Je pense que dès que tu n'as pas vu la personne, ou tu ne l'as pas rencontrée personnellement, il y a peu de gens qui vont louer un appartement comme ça. Ils sont plutôt méfiants s'ils ne t'ont jamais vu personnellement. Ouais. Du coup, voilà, tu as tout à fait raison.
Et est-ce que tu as une idée, je ne sais pas, de plateforme, par exemple, pour trouver un logement ou une idée du budget, de combien à peu près ça coûte un loyer en Allemagne?
Ça dépend fortement des villes, effectivement, ouais. Je sais que, pourtant, à Berlin, c'est pas le loyer le plus cher en toute l'Allemagne, c'est plutôt vers le sud qu'on trouve des appartements de plus et plus chers. Du coup, Munich, pour les étudiants, c'est chaud.
Francfort aussi.
Ouais, Francfort également. Il y a quelque chose qui s'appelle le Mietdeckel. Du coup, traduit littéralement, c'est le couvercle de loyer. Ça empêche les prix de monter d'année en année. Je dirais pour un appartement d'étudiant, peu importe si en coloc ou seul, je dirais 450 euros, à peu près ça. Ouais.
Je vois Valentin qui confirme.
Dans les grosses villes. Après, moi, j'ai eu de la chance à Bamberg, ça coûtait 200 euros.
Oui,
l'appartement étudiant à 18 mètres carrés, enfin, un appartement étudiant comme en France, quoi. Et ça coûtait 200 euros, là, c'était vraiment, vraiment rien, quoi.
Ouais, et puis moi, je conseille de tout de suite partir en coloc, il ne faut pas hésiter. Du coup, voilà, déjà, tu es immersé dans la culture si tu habites avec des vrais Allemands. Et c'est moins cher. On partage la bouffe, voilà, il n'y a que des avantages.
Et coloc, ça se dit VG en allemand. Hein.
Exact, Wohngemeinschaft, WG.
Si vous cherchez sur Google.
Et le site, c'est WG-Gesucht, non, c'est
ouais, ça? Ouais, WG-Gesucht. On a pas mal aussi sur eBay Kleinanzeigen. C'est un peu le bon coin de l'Allemagne. Voilà, il y a des annonces qui sont affichées dans le supermarché local. Deux fois à la fac, il y a le Schwarzbrett, qui est la plage noire, non?
Le tableau.
Le tableau, exact. Et du coup, voilà, on cherche un nouveau coloc. Mitbewohner gesucht. Telefonnummer 0151. OK. c'est un peu de cette direction que ça va.
Quoi d'autre, alors, pour la préparation qui a été important
Moi, je me rappelle qu'avant de partir, on a dû donc créer un dossier nous présentant, nous, en tant que personne, parce que, en fait, pas besoin de chercher un appartement. puisque l'association donc, nous garantit qu'une famille d'accueil va nous accueillir donc pendant la durée où on sera donc, dans le pays où on veut aller. C'est-à-dire qu'on va, donc on va faire un dossier où on se présente nos goûts, nos hobbies, toutes les choses comme ça, où, pour que voilà, la famille puisse nous choisir. Et pareil, en fait, on ne choisit pas la famille, c'est la famille qui nous choisit, nous. Et donc, voilà, après, niveau restrictions, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de papiers à signer, si au cas où on tombait malade ou des choses comme ça, pour, un peu comme pour une carte vitale en France, en fait. Et... sinon, c'est vrai que l'association AFS garantit quand même pas mal de sécurité. Et au final, il n'y a pas énormément de papiers à remplir par rapport à la durée où on part et des choses comme ça.
Il y a une chose qu'il faut faire. Je viens de me rappeler. Il faut faire en Polizeiliches Führungszeugnis. Mais c'est quoi le nom français? En gros, c'est mairie, tu vas chez la police pour en gros ils t'attestent un document que tu as jamais été persécuté.
D'accord, persécuté?
Non, tu as jamais commis des...
Ah, poursuivi.
Oui, poursuivi.
En justice, pas de casier judiciaire.
Ouais, exact. Et voilà, si tu es en Allemagne, il y a pas mal de gens qui te demandent de faire ça.
Casier judiciaire Führungszeugnis.
Exact. Genau.
Alors, la Meldung à faire aussi. Ouais. C'est quand tu arrives dans une ville, il faut que tu t'inscrives à la ville. Et tu payes du coup la radio et la télé.
Ah, il y a du Rundfunkgebühren.
Oui. Donc tu vas à la mairie et tu dis ouais, salut, je suis là, j'habite ici, officiellement.
Exactement, c'est ça. Et ils te donnent des coups un papier et tu es officiellement. Inscrit en Allemagne, et du coup, c'est quoi, 17,50 par mois, je crois.
Ouais, environ de ça, ouais.
Et tout le monde paye, c'est intéressant, ce système-là aussi pour la télé, parce que tout le monde paye, en fait. Dès qu'il y a un habitant en Allemagne, il paye pour la télé, qu'il ait la télé ou pas chez lui, en fait, parce que ça va avec la radio. Et c'est vrai que ça fait pas mal d'argent pour la télé allemande, et c'est pour ça qu'ils ont encore les matchs de la Coupe du Monde de foot en clair, eux.
C'est vrai, moi je me souviens justement quand j'étais parti en Allemagne, ma famille d'accueil du coup qui m'avait donné un papier comme ça attestant que du coup j'habitais en Allemagne et que à tout moment si je voulais revenir en Allemagne, voilà, j'avais des papiers disant que je peux vivre en Allemagne et que j'ai déjà vécu en Allemagne, donc c'est possible quoi.
Paul a évoqué la santé et les papiers à faire avant de partir dans le domaine de la santé. Valentin, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir pour s'assurer qu'en cas de problème de santé dans le pays, en Allemagne donc,
Comment ça en cas de problème? Est-ce que tu insinues que j'ai eu un problème en Allemagne?
Non, pas du tout, mais au cas où ça peut arriver. Non, mais ce serait quand même bête de gâcher un séjour comme ça.
C'est arrivé, donc j'étais bien content d'avoir mes papiers à jour. Du coup, je partais en VIE en Allemagne, et donc j'avais ma carte européenne d'assurance maladie, mais aussi j'avais une assurance privée qui était... faite par le VIE, et c'est vrai que ça couvrait pas mal de frais, etc. Mais, et puis un jour, c'était un vendredi soir, j'étais à Berlin, et puis évidemment à Berlin, on fait un peu la fête, et je suis tombé malencontreusement sur la cheville, et du coup les pompiers, les urgences en Allemagne, etc., et je me suis retrouvé en fait à m'être cassé 3 ligaments de la cheville. Donc, je ne me suis pas loupé. Et donc, du coup, IRM, etc. Et donc, j'ai tout avancé de ma poche, parce que c'était une entreprise privée, enfin, du coup, une mutuelle privée. Et en Allemagne, ils font très, très bien la différence. Y a pas moi, je n'avais pas le tiers payant. Mmh. Et c'est vrai qu'en Allemagne, il y a le tiers payant, mais que pour les complémentaires publics et pas privés. Mais par contre, j'ai été tout remboursé. Donc ça, c'est quand même top. J'en ai eu pour plus de 1500 euros, quelque chose comme ça. Parce qu'entre l'IRM, déjà, ça coûte 1000 euros. Plus les urgences, etc. Donc, on a tout payé, etc. Mais je me suis fait tout rembourser. Donc, j'étais content d'être à jour pour la sécu. Mais c'est vrai que, par contre, la sécu allemande marche très, très bien. Là-dessus, un petit peu à l'image de la sécu française, même un peu mieux, je dirais. Mais beaucoup de choses marchent mieux en Allemagne qu'en France, mais bon, ça, on le dira pas. mais en tout cas, ouais, c'était... donc, j'ai eu un petit souci de santé. Je me suis fait rapatrier aussi en France parce que, du coup, j'avais ma voiture de fonction parce que j'étais commercial là-bas. J'étais basé à Berlin pour le boulot, mais il fallait que je rentre à Sarrebruck puis à Valence parce que je pouvais plus conduire. et j'étais en arrêt de travail. Et du coup, là-dessus, je me suis fait rapatrier jusqu'à Valence avec un chauffeur, etc., qui a ramené la voiture de fonction, etc. Donc là-dessus, le VIE a été vraiment, 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 enfin, très performant et super avec moi. Et c'est pour ça, je pense que c'est bien de partir avec un organisme, tu le disais aussi, parce que on est un petit peu couvert, et c'est pour ça qu'aussi avec le comité de jumelage, c'est bien aussi de partir avec des organismes qui peuvent nous aider justement à gérer tous ces papiers là, parce que on se dit ça n'arrivera jamais, et puis le jour où ça arrive, on est content d'avoir nos papiers à jour.
Alors, très bonne transition, justement, je vous propose d'écouter à nouveau Salia qui va parler de l'OFAGE et donc de différentes structures qui sont proposées si on a envie de partir dans un échange franco-allemand.
Il existe une structure qui est l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui encourage les relations entre les jeunes des deux pays. Que tu aies 3 ans ou 30 ans, il y a des possibilités d'accompagnement dans le cadre d'échanges scolaires, universitaires, stages, cours de langue, projets d'engagement, rencontres sportives ou culturelles, offres d'emploi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles avec l'OFAGE. Au niveau des programmes, dans tout ce qui concerne le collège et le lycée, il y a des possibilités d'échanges scolaires pour des jeunes qui sont en 4e, 3e, 2e ou 1e, avec le programme Brigitte Sauzet ou bien le programme Voltaire situé en 3e ou en 2e. Ce sont essentiellement des séjours en famille d'accueil pendant 6 mois, donc c'est assez intéressant parce que effectivement tu peux avoir un soutien financier dans le cadre de ces échanges. Autre programme aussi qui peut être intéressant pour les étudiants ou des jeunes qui sont sortis du système scolaire ou après un bac, tu peux avoir la possibilité d'aller faire 4 semaines de stage en Allemagne, qui peuvent aller jusqu'à 3 mois, et bénéficier donc d'aides financières et de bourses pour ce type de programme. Il existe également le programme Praxis, qui te permet d'avoir pas mal d'informations en termes de recherche d'emploi. Donc, tu as des offres possibles sur ce type de programme-là. Dans le cadre du programme Apprendre une langue, la plateforme Parcours te permet de pouvoir améliorer ton allemand si tu as entre 16 et 30 ans. Donc, l'inscription est gratuite. Il y a des tuteurs, des personnes, des coachs également qui peuvent t'accompagner. Dans le cadre des échanges et notamment du programme Engagement volontariat franco-allemand, il existe un programme qui est identique à celui du service civique et qui s'adresse aux 18-25 ans et qui te permet de faire du volontariat donc dans une association ou une collectivité territoriale pendant 10 mois en Allemagne. Donc tu peux te renseigner sur volontariat.ofage.org pour devenir volontaire. Bien évidemment, il y a un soutien financier au même titre que le service civique en France. Si tu es plutôt dans une démarche de recherche d'emploi formation, il y a également un programme qui s'appelle Job dans ma ville jumelée. Tu peux bénéficier d'une bourse pour séjourner 2 à 4 semaines dans une ville ou une région jumelée en Allemagne. Et donc, du coup, après, à toi de faire un choix au niveau des entreprises ou institutions administrative pour pouvoir effectivement faire donc ce séjour professionnel qui est possible avec ce programme-là. D'autres accompagnements existent. Il suffit de voir sur le site donc ofage.org toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à toi.
Slowly hand brewed flat white coffee, sei einfach Kaffee, wenn du tanzt. Fiese Heuschrecken, räudige Immobilienhaie, alles Tiere, wenn du tanzt. Lutherstadt, Wittenberg, Kloppenburg, Hannans Leben, alles Kreuzberg, wenn du tanzt. Linkin Park, Timmy Bensko, Robin Schulz, Revolverheld, alles Kunst, wenn du tanzt. Schließ die Schulen dieser Stadt, weil es keinen Sinn mehr hat, noch ein Weltbild zu vermitteln, das schon durch das kleinste Schütteln.
Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen, dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen, dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen, dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur an deinen Beinen, wenn du tanzt. Ackermann, Merkel, Jan, Fleisch, Hauer, Voldemort, nette Menschen, wenn du tanzt. Schicker, Mac, Tower, Fett, Power, Doppel, Oktachor, Rechenschieber, wenn du tanzt. Doppel, Sechs, Tiki, Taka, gegen Pressing, falsche Neun, hoch hinein, wenn du tanzt. Dumme Ex-Freunde, Sex, Buddies, Herz, Schmerz, Drama, alles Liebe, wenn du tanzt. Schließ die Schuhe in dieser Stadt, weil es keinen Sinn mehr hat, noch ein Weltbild zu vermitteln, das schon durch das kleinste Schütteln deines linken Schulterblatts einfach so zusammenkracht und nur Schutt und Asche ist, wenn du dann am Tanzen bist. Denn dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen, dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen, dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen, dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur an deinen Beinen, wenn du tanzt.
Top départ, le rendez-vous jeunesse en mouvement qui te donne les clés du voyage.
Vous écoutez Top départ donc, et on parle de l'Allemagne aujourd'hui avec Valentin, Paul et Rick. Rick qui nous propose une petite recette.
Bah voilà, c'est une recette d'une spécialité allemande qui vient plutôt de l'ouest d'Allemagne. Ça s'appelle le Kartoffelpuffer et c'est des galettes de pommes de terre. Alors, vite fait pour la recette, c'est on a besoin de 1 kg de pommes de terre, des oignons, des œufs, un peu de la farine, de l'huile, du sel et du sucre. Et on râpe les pommes de terre, on ajoute les oignons coupés ou hachés, on met les œufs dedans, la farine et un peu de sel. Et puis avec ce mélange-là, on la fait cuire à la poêle pendant 3 minutes pour chaque galette et bon, puis on les tourne. Et voilà, on la mange en Allemagne avec le purée de pommes. Bah oui, le purée
compote,
de pommes.
La compote de pommes.
Ouais, exact. Le Apfelmus. Et c'est une spécialité qui vient plutôt de la Cologne. Et c'est délicieux.
Merci beaucoup, ça donne envie.
C'est une crique, en fait.
C'est quoi?
C'est une crique.
C'est un peu une crique,
ouais. C'est un peu une crique, c'est vrai.
Ouais. Non, c'est en Kartoffelpuffer.
Alors, je vous propose maintenant de retourner dans le passé, dans vos têtes, de vous retourner en Allemagne et de vous rappeler comment est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y avait de particulier, quels souvenirs vous en gardez.
J'en garde un souvenir exceptionnel. Je pense que c'est un souvenir qu'on garde toute notre vie et le fait de partager avec des personnes, de partager donc avec une famille d'accueil, de connaître une nouvelle culture en fait. Et aussi, grâce à FS, il y a plein d'autres jeunes qui viennent du monde entier, qui venaient la même année que moi en Allemagne, ce qui fait que j'ai rencontré des personnes vraiment du monde entier, je pense vraiment de chaque pays. Et c'est une expérience enrichissante humainement parlant, culturellement parlant et aussi au niveau de la langue. Et c'est vrai que si c'était à refaire, je referais exactement la même.
Bah, moi, pareil. Du coup, à chaque fois que je suis allé en Allemagne, c'était super bien passé. Et c'est vrai que c'est une autre culture, il faut se le dire.
C'est-à-dire
Déjà, moi qui travaille dans le vin, les Allemands ne boivent pas de vin à table. Du coup, ce qui est assez bizarre pour un Français, ils attendent la fin du repas pour se boire un petit verre de vin devant la télé. Et c'est pour ça qu'ils aiment les vins un petit peu plus sucrés, parce que ça va mieux sans manger. Mais bon, ça, c'est par rapport au métier. Après, moi, ce qui m'a frappé la première fois que je suis allé en Allemagne, c'est qu'ils mangent tout le temps, en fait. Vraiment, c'est le petit déj à 7h du matin. Après, il y a une petite pause où on mange une petite pomme ou un petit sandwich à 10h. Après, on mange à midi. Après, on mange à 16h. Après, à 18h, il y a encore on mange des petits sandwichs, etc. Puis devant la télé, encore un petit peu de gâteau. C'est vrai que j'avais l'impression de pas arrêter de manger, quoi. Ça me dérange pas, hein, mais c'est vrai que la première fois en France, c'est vraiment 3 repas par jour, etc. Et puis après, c'est fini. Alors qu'en Allemagne, ils mangent beaucoup de fois, pas beaucoup, mais ils mangent beaucoup de fois. Et c'est vrai que la première fois, c'était... Ah oui, ok.
Et c'est vrai que moi, je me souviens avoir parlé gastronomie, donc avec ma famille d'accueil, et quand je leur disais que, par exemple, les repas de Noël duraient environ chez nous 2 heures, 3 heures, ils étaient vraiment à la limite du choc, parce que pour eux, c'est 30 minutes, grand maximum, si ça parle. Et c'est vrai que chez nous, le moment où on mange, c'est un moment de partage, c'est un moment où on parle avec notre famille, nos amis, où on parle de notre journée, où on partage. Et chez eux, c'est vraiment, on mange pour manger, et on parle après le repas, quand on boit le café.
Alors, on a bien compris donc, qu'il y avait des différences en termes de gastronomie et d'habitudes alimentaires. Paul, est-ce que il y a d'autres particularités allemandes qui t'ont marqué, autres que la nourriture éventuellement?
Alors, je dirais le respect envers les personnes. C'est un pays qui m'a vraiment marqué, car il y a un respect mutuel envers chaque personne. Et c'est-à-dire qu'il y a tout le monde se montre du respect, mais même envers les personnes qu'on ne connaît pas trop. Et à première vue, on pourrait penser que les Allemands sont froids. Mais en fait, quand on commence un petit peu à parler avec eux, quand on commence à partager un peu avec eux, ils sont très chaleureux. Et moi, je garde encore contact avec des potes d'Allemagne. Et je sais qu'un jour, je retournerai en Allemagne pour aller les voir. Et c'est vrai que les Allemands sont très chaleureux par rapport à ce qu'on pourrait penser.
Et par rapport à une journée type allemande, il y a quoi de différent?
Déjà, ils se lèvent plus tôt que nous. Enfin, moi, je sais que j'ai travaillé un petit peu à Paris, où on commence à 9h30 du matin à travailler. En Allemagne, ils sont à 7h30 au bureau et ils finissent beaucoup plus tôt, ils finissent à 16h. Donc ça, c'est vraiment le côté travail où c'est un petit peu différent. Mais c'est intéressant aussi, ils profitent de l'après-midi, mais un petit peu à l'image de l'école aussi, parce qu'ils finissent plutôt les cours, même s'ils ont moins de vacances que nous, mais ils finissent en tout cas beaucoup plus tôt. Et c'est vrai que c'est une grosse différence. Et moi, je suis d'accord avec toi sur le respect, tout à fait. Et je vais dire le respect de la règle. Tout à l'heure, Frédéric parlait du feu rouge. Et c'est vrai qu'en France, on a un petit peu... celui qui sort un petit peu de la règle et qui ne se fait pas choper...
Pas vu, pas pris,
exactement. Alors qu'en Allemagne, si tu n'es pas dans la règle, il y a un Allemand qui va venir te voir et il dit « Monsieur, vous n'êtes pas dans la règle. Donc, s'il vous plaît, rentrez dedans. » Et c'est vrai que moi, une fois, je m'étais garé un petit peu en double file parce que... une copine devait retirer, etc. Et il y a 3 Allemands en l'espace de 5 minutes qui viennent me voir et qui me disent, bon, j'étais immatriculé en français en plus, et qui viennent me dire, non mais monsieur, vous pouvez pas rester là,
partez, quoi.
Voilà. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Enfin, c'est toujours dit avec bienveillance, etc. Mais attention, là, vous sortez des clous, vous sortez de la règle, donc s'il vous plaît, revenez. On vous le dit une fois gentiment. Après, ils sont un peu moins sympas.
Alors, on comprend bien donc, que vous avez tous aimé vos expériences en Allemagne, tous les deux. Malgré tout, est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés, des moments un peu plus durs? Et Rieke, tu pourrais aussi nous dire si en France, il y a eu des moments un peu difficiles. Donc, allez-y. Bon,
moi, je pense les moments un peu difficiles, c'est pas par rapport à l'Allemagne, c'est surtout par rapport à l'expérience, car on est encore un peu jeune, on est encore très soutenu par le concours familial. Et le fait de partir complètement... à la découverte, en fait, c'est un peu une aventure, c'est-à-dire qu'on quitte tout ce qu'on a chez nous, donc on quitte la famille, les amis, et en fait, on sort vraiment de notre bulle pour aller à un endroit inconnu. Moi, je me rappelle que quand j'étais parti en Allemagne, je parlais pas un mot d'allemand, et pourtant, je suis quand même parti à la découverte. C'est difficile les 2-3 mois, car on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à partager, et on n'arrive pas à se faire comprendre. Et puis voilà, on essaye de trouver nos repères, et... c'est un petit peu instable au début, mais après, quand on a nos repères, c'est tout bon, tout se passe bien. Et c'est une expérience qui fait que grimper. C'est un peu une expérience en scie. C'est-à-dire que des fois, ça ne se passe pas bien, puis après, ça remonte, ça ne se passe pas bien, ça remonte. Mais généralement, chaque personne qui part avec AFS disent qu'en début d'année, ils veulent tout de suite rentrer chez eux, et en fin d'année, ils ne veulent absolument pas rentrer, ils veulent rester plus longtemps, car voilà, c'est une vie dans une année.
D'accord. Rieke, des moments un peu difficiles en France ou...
Moi... Enfin, comme je disais, je ne vois pas trop de différence entre l'Allemagne et la France. Quand même, y a des moments qui ne sont pas faciles. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre l'habitude française. Surtout, moi, en Allemagne, il y a des petites différences, par exemple, au rapport à l'histoire aussi. On n'a pas cette présence de police et militaires dans les rues. Déjà, du coup, voilà, c'est différent. En France, ils sont beaucoup plus présents. Et la première fois que j'ai vu les policiers se promener dans la rue, moi, j'étais un peu effrayée, j'avoue. Et voilà, il fallait qu'un pote français m'explique. C'est tout à fait normal. En France, ça se passe comme ça. Voilà, en Allemagne, ça se passe pas du tout comme ça.
Et Valentin, enfin, est-ce qu'il y a eu des moments...
Moi, des problèmes un petit peu, on va dire, au niveau du boulot. En fait, en Allemagne, tout est tellement bien huilé qu'ils savent pas ce que c'est qu'avoir un problème. Et j'avais un client comme ça, et mon entreprise avait fait une petite bêtise, et du coup, j'appelle mon client un petit peu navré, etc. Et je lui dis, monsieur, il y a eu un petit problème sur la commande, mais vous inquiétez pas, je vais la régler. Oui, mais il y a un problème. Il me dit. Je dis, on va le régler. Oui, mais il y a un problème. D'accord, mais on va le régler ensemble. Oui, mais il y a un problème. C'était tellement pas normal qu'il y ait un problème parce que. En Allemagne, les problèmes, ça arrive un peu moins souvent qu'en France. Nous, on dit, on a l'habitude, on gère des problèmes au jour le jour, etc. Et en Allemagne, pas trop. Et c'est vrai qu'il était resté bloqué sur ce problème. Et d'arriver à lui faire comprendre que, allez, on va s'adapter au problème. Oui, il y en a un, mais justement, on va le résoudre. C'est comme ça qu'on gère des problèmes. Et ben ça, il l'avait pas compris. Et j'espère qu'il l'a compris maintenant, je pense. Mais parce qu'on a réussi à démêler le problème. Mais c'est vrai que j'ai passé 10 minutes avec lui... J'ai l'impression d'être le mur des lamentations. Et il disait, c'est pas normal qu'il y ait ce problème-là. Quoi. Donc voilà, ça c'était un petit souci au niveau du boulot.
Et question concrète, est-ce que vous avez fait du vélo? Vous êtes déplacé en vélo? Parce que les Allemands quand même
Très, très fréquemment. D'ailleurs, ça m'a énormément surpris de voir autant de personnes à l'école. Enfin, vraiment, les trois quarts des étudiants vont au lycée ou au collège à vélo. Autant en hiver qu'en été, d'ailleurs. C'est ce qui m'a le plus surpris. Et j'ai expérimenté ça, et c'est vrai que c'est très sympa dès le matin de prendre son vélo, de faire un petit peu de sport, et au moins on est direct réveillé.
Moi je peux constater que c'est quelque chose qu'on fait en Allemagne. Moi aussi je suis venue à la radio en vélo, et voilà, on y va un peu partout avec.
Alors Rieke, tu restes avec nous pour ta nouvelle anecdote.
Où sont les poulards? J'ai faim!
Alors, Rieke, maintenant, tu vas nous parler d'un coup de cœur tourisme donc, que tu as eu en France.
Un coup de cœur tourisme en France? Déjà, je vais rester dans le local et je vais parler du château de Crussol. C'est une colline qui est directement en face de Valence. Du coup, Valence est au bord de la Rhône, comme vous le savez tout, parce que vous êtes de la région. Et voilà, le château de Crussol, ça m'a impressionnée. Je suis montée là-bas une fois. J'ai trouvé ça super chouette. On a une jolie vue sur le Rhône, sur Valence. Le fait que les ruines sont encore préservées, ça aussi, j'ai bien aimé. Ça montre l'histoire, la Drôme et la France aussi. Et aussi, il y a là-bas un amphithéâtre. Ouais. Et j'imagine qu'il y a des jolis concerts pendant l'été.
On en a moins en ce moment, mais oui. Et en Allemagne, est-ce que tu as un conseil coup de cœur?
Je vais parler de ma région à moi, le Wendland. Du coup, c'est une région qui est plutôt rurale, mais on a quelque chose de spécial quand même. C'est considéré presque patrimoine du monde. Ce sont des villages, les villages Rundlinge, ça s'appelle. Il y a des maisons qui sont construites en cercle. C'était lieu à des agriculteurs. Du coup, ça date de plus de 300 années qui sont construits comme ça. Mais voilà, il n'y a pas plus de 80 habitants par village. Mais il y a quand même 16 villages dans une région. Et voilà, c'est super chouette de se balader entre les petits villages en vélo ou on s'arrête pour faire un petit pique-nique. Il y a le rivière Elbe qui n'est pas loin. Et du coup, voilà, mon coup de cœur, c'est le Ventland.
Alors pour conclure, je vous propose donc de parler un peu des leçons que vous avez tirées de cette expérience, de ce que ça vous a apporté. Et j'aimerais donner d'abord la parole à Clara qui est avec nous par téléphone, qui nous a appelé. Bonjour Clara.
Bonjour.
Donc toi, tu es partie en Allemagne également et tu voulais témoigner sur ce que ça t'a apporté aujourd'hui, dans ton quotidien.
Oui, moi je suis partie en seconde, je suis partie en échange Brigitte Sauzé, donc je suis partie avec une correspondante. Et donc le voyage m'a beaucoup plu, on a gardé contact et ensuite j'ai choisi après mon bac de partir un an en Allemagne pour faire un volontariat franco-allemand, donc avec l'OFAGE. Et je suis partie dans la ville de Schneeberg, c'est dans la région de Dresde et Leipzig, donc à l'est de l'Allemagne. Et j'étais là-bas en tant qu'assistante de langue française pour les cours de lycée. J'ai donc passé un an l'année dernière là-bas avec donc une tutrice et tous les jours, j'étais en cours avec les élèves de la 6e à la terminale et je leur apprenais le français d'une autre manière qu'avec les cours standards. J'essayais de varier un peu. Et ensuite, j'ai terminé donc mon année de césure plus rapidement que prévu parce que je devais finir en juin. Et à cause de la pandémie, j'ai dû rentrer en France en mars. Et j'ai terminé mon année à distance avec des cours en visio avec les élèves. Et en septembre 2020, j'ai commencé mon BTS Commerce International dans lequel je suis. Et pour ça, je dois faire un stage à l'étranger entre mai et début juillet. Donc, j'ai choisi de retourner en Allemagne. Et pourquoi l'Allemagne ? Parce que j'ai beaucoup aimé mon expérience de volontariat à Schneeberg et j'avais vraiment envie de vivre une nouvelle expérience avec une entreprise allemande cette fois et plus du côté scolaire des lycées. Donc voilà pourquoi j'ai choisi.
Donc ce que ça t'a apporté au final, c'est que ça reste dans ton quotidien encore aujourd'hui.
Oui, exactement. Je continue d'avoir du contact avec ma correspondante qui était à Schneeberg. Je suis allée en vacances avec elle. Ils sont venus en France. Nos familles se connaissent alors qu'ils connaissent, ils parlent pas la langue. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper enrichissant et de motivant pour la suite de mes études et de ma vie plus tard.
Merci beaucoup, Clara.
De rien.
Alors, il nous reste 2 minutes, peut-être chacun, son tour, un petit mot de la fin sur voilà, ce que ça vous a apporté. Paul ?
Eh bien, je dirais beaucoup d'autonomie et voilà, vraiment la découverte de la personne, la découverte de l'inconnu. Et c'était, voilà, je conseille cette expérience à toute personne.
Merci, Valentin.
Ben moi, de l'adaptabilité, parce que forcément, une nouvelle culture, une nouvelle façon de travailler. Mais en tout cas, faites-le, parce que c'est super intéressant et on en sort grandi. Et ça nous servira toujours et on s'en rappellera toujours. Nous, ça fait, ben, on est deux autour de la table, enfin trois avec Rieke, mais voilà, partir à l'étranger, c'est toujours des super expériences. Donc faites-le, bougez. Enfin, quand ça ira mieux avec Covid.
Et toi, Rieke ?
Moi, je dirais, c'est l'ouverture d'esprit. Alors, dès que tu pars ton pays, vite fait, bah, vite, tu vas t'apercevoir qu'il n'existe qu'une culture française, qu'une culture allemande. Il y a autant de différentes facettes du pays qu'il y a des gens. Et voilà, de se rendre compte de ça, c'est déjà un cadeau, je dirais. Et bah, tout d'abord, les rencontres. Et voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Et on est privilégié quand on a des occasions de faire ça. Vas-y, allez, venez à l'Allemagne.
Merci Paul, Valentin et Rieke d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Plaisir. Merci beaucoup.
Merci aussi à Anna Gasquet, Salia Derbois, Rosine Batteux et Romain Galati pour les informations sur leur structure.
C'était l'émission Top Départ, donc l'émission qui vous donne les clés pour partir à l'étranger.
Et aujourd'hui, en Allemagne.
Il s'agit d'une coproduction Europe Direct Drôme Ardèche, Radio BLV, Valence Roman Aglo, la CAF et la DDCS Drôme.
Vous trouverez plus d'informations et les liens vers les structures dont nous avons parlé sur le site internet de Radio BLV, radioblv.com, et sur InfoJeune Drôme Ardèche.
Et on se retrouve dans un mois pour vous emmener cette fois-ci en Europe de l'Est. À bientôt. Tschüss, auf Wiedersehen.
Tschüss.
Allez, et marche.
sont attendus quai numéro 1.
Top départ, le rendez-vous jeunesse en mouvement qui te donne les clés du voyage.
Pose cette valise. Chouette, Alessandro.
Ne t'inquiète pas, il n'y aura aucun problème.
Merci de votre attention.